tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Alors avant de commencer, on va déjà commencer par s'excuser pour la qualité sonore du dernier épisode. On a eu quelques petits soucis techniques et on n'a notamment pas eu de vidéo. Donc aujourd'hui, on a la technique avec nous, donc on devrait être sauvés, tout devrait bien se passer. J'espère que vous nous verrez, que vous nous entendrez bien et du coup que vous irez jusqu'au bout du podcast parce que c'est un peu le but aussi. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous donner vos avis et à nous faire vos retours parce que c'est précieux pour nous et ça nous aide à continuer tout simplement, à avoir le kick.
Et j'irai même plus loin, si vous avez des sujets, des propositions de sujets pour le podcast, n'hésitez pas.
Absolument, ce podcast, bah, il est aussi pour vous. Alors, de quoi va-t-on parler justement aujourd'hui? Eh bien, on vous dit ça dans un instant, mais laissez d'abord moi le temps de vous présenter mes compères autour de la table. Et eh bien, on a vu que sans lui, c'était plutôt coton pour la technique. Il y a Michael pour la province du Hainaut. Bonjour Michael.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, si elle le pouvait, elle ferait cette émission debout ou même dans les bois. Aurélie pour la Wallonie-Picard, et c'est sa première dans le podcast.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors, il porte la casquette anglaise, mais il est néanmoins encore jeune. C'est François pour Inbeway.
Bonjour à toutes,
bonjour à tous.
Et enfin, notre invité qui va nous tenir cette émission en place, c'est Justine Colson de La Louvière.
Bonjour.
Et puis moi-même, bah, Marc, également pour InBeWay. Et si vous connaissez vos supras, vous aurez remarqué que je saute sur n'importe quelle occasion pour faire un jeu de mots. Vous avez repéré les jeux de mots? Malheureusement, oui, il les en connaît. Très bien. Bon, avant de commencer cette émission, quelques petites règles. Justine, tu auras trois mots à relever dans cette émission, à noter, et que tu donneras à François, qui à la fin nous proposera une conclusion à sa sauce. Mais de toute façon, on te laissera le dernier mot de la fin aussi, donc pour clôturer cette émission. Donc ça, c'est un petit peu pour la forme. Place au fond, maintenant. De quoi allons-nous parler exactement? Eh bien, on s'est dit qu'on allait un peu aborder et appréhender le concept de ville exemplaire en matière de climat et d'énergie, puisque bah, en tant que ville qui a un PEDC, qui a un programme POLEC, on est censé être exemplaire. En tout cas, on suit les prescriptions européennes en la matière. Mais certaines villes ont même décidé d'aller encore plus loin et on va explorer les Net Zero Cities, donc zéro émission nette, les villes zéro émission nette. Et c'est pour ça que Justine est avec nous, puisque La Louvière fait partie du programme des Net Zero Cities. Et on va également, en deuxième sujet, parler de l'appel à candidature des villes jumelées pour participer justement à ce programme de Net Zero Cities et de voir comment en fait certaines villes peuvent apprendre de villes qui seraient plus avancées. En termes de ville exemplaire, on va également faire un zoom sur la ville de Leuven avec François qui va nous raconter un peu tout ça. Et puis Michael va aussi nous parler du YesWiki qui est mort dans sa terminologie mais qui fait place au réseau POLEC désormais et qui sera un outil très utile pour tous les coordinateurs et coordinatrices POLEC. C'est parti ?
Go. C'est parti.
On y
c'est
va. Eh bien, donc on va parler de ces fameuses Net Zero Cities. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est sans doute un peu normal parce que finalement, on en parle assez peu dans le programme POLEC. C'est un programme ici qui est européen avec pour objectif au départ d'avoir 100 villes qui sont neutres d'un point de vue climatique et qui sont aussi des Smart Cities. Et donc, évidemment, la neutralité POLEC, elle se vise à un objectif 2050, mais ici, on a décidé d'aller plus vite, plus loin, en étant neutre d'ici 2030. Donc, c'est vraiment un programme qui est très, très ambitieux. Hein. 2030, je rappelle quand même que c'est dans 6 ans. Voilà, c'est vraiment demain. Et pour expliquer un petit peu, on a plusieurs couches. Ça a démarré en 2022, notamment avec les Mission Cities, donc qui ont vraiment... qui sont là pour nous faire tendre vers un climat neutre et un petit peu montrer tout ce qui pouvait être exemplaire en termes de gouvernance, d'innovation sociale, d'engagement citoyen, de finance, etc. Et surtout viser un petit peu le changement systémique. Ça, c'est vraiment une notion qui revient très fort dans dans cet objectif de Net Zero Cities. Et ben donc en 2012, on a eu 112 villes qui ont postulé, avec en Belgique, on a notamment la ville d'Anvers, de Bruxelles, de Leuven et de la Louvière, comme on l'a déjà mentionné. Donc comment ce programme aide les villes, on va en discuter dans un instant avec Justine. Et il y a deux autres éléments aussi qui sont importants, c'est le Pilot Cities, donc les villes pilotes qui suivent en fait vraiment des projets pilotes et toutes des approches innovantes et des solutions pour arriver vers une décarbonisation rapide. Donc, il vraiment met l'accent sur des projets spécifiques sur un programme de 2 ans. Et donc, dans ce programme des villes pilotes, on a aujourd'hui 104 villes, donc qui sont parfois les mêmes mais qui peuvent aussi être des autres. C'est ça qui rend la chose un petit peu complexe, sinon évidemment ce serait pas comique. Mais donc avec cette idée de nouveau de changement systémique et aussi de travailler sur des thématiques spécifiques, ben, ça va permettre de donner des exemples très concrets sur comment y arriver. Et ça nous amène sur la troisième couche en fait de ce programme, ce sont les villes jumelées qui vont pouvoir en fait se raccrocher justement à ces villes pilotes et apprendre en fait de ce programme. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une troisième cohorte ici de ces villes pilotes qui vient d'être annoncée au mois de mai. Et pour vous donner une idée aussi, avec 25 nouvelles villes et notamment 14 millions de fonds européens quand même, donc c'est quand même assez important. C'est vrai que globalement ça reste, pour certains exemples, c'est pas mal de grandes villes, des capitales, mais on a aussi des villes moyennes ou des plus petites villes, évidemment. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le cadre, et on va revenir un petit peu en arrière, du coup en 2022, c'était en avril 2022 si je ne me trompe pas, à peu près, quand ça a été annoncé en tout cas, ou quand vous avez postulé à la Louvière.
Je pense que c'était à peu près ça, parce que moi à ce moment-là, je n'étais pas encore à la Louvière, donc ce sont mes collègues qui ont répondu à l'appel à projet et qui ont fait les démarches pour pouvoir être sélectionnés. Je sais que c'est à peu près un petit peu après où on a reçu l'information comme quoi on était sélectionné comme candidat. Et ensuite, ça s'est un peu enchaîné. Le problème qu'on a rencontré à la ville de la Louvière, c'est que la coordinatrice POLEC de l'époque est partie. Enfin, son contrat terminait incessamment sous peu et donc elle n'a pas souhaité le renouveler, donc elle est partie. Et donc pendant une petite année, on va dire, le projet n'a pas évolué très rapidement. Donc ils ont fait des démarches pour, donc dans le cadre de cet appel à projet, il y avait tout un plan d'action à revoir. Et donc au sein de la ville de la Louvière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné le PAEDC avec ce plan d'action, de façon à pouvoir remplir tous les objectifs dans un seul plan d'action et rassembler vraiment un maximum les objectifs, quoi. Et donc avant que je n'arrive, le cahier de charge pour désigner un bureau d'études pour travailler avec nous a été rédigé, parce que c'était au-delà des compétences et à mon avis aussi des hommes disponibles au sein de la commune. Donc c'est beaucoup de travail très rapidement, et donc il n'y avait pas suffisamment d'effectifs à la commune à ce moment-là. Donc ils ont fait un cahier de charge, on a attribué un bureau d'études en septembre à peu près, septembre 2023. En novembre, ça a été attribué, on a commencé à travailler, on a fait les premières réunions en décembre et on a vraiment lancé tout ça en janvier. Donc c'était assez rapide parce que la petite problématique qu'on a rencontrée, c'est que moi je suis arrivée en septembre à la ville de la Louvière, donc je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les actions et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et pour bien faire, il aurait fallu que je connaisse tout pour pouvoir guider le bureau d'études et faire un plan qui fonctionne vraiment bien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment interagi avec tous les services au sein de l'administration. Ce qui est très chouette, c'est qu'à la Louvière, c'est une seule administration qui reprend tous les services, donc tout le monde est assez disponible. Si les gens ne répondent pas, on peut toujours aller voir dans leur bureau. S'ils ne sont pas là, on ne sait jamais. Et donc, pour tout ce qui est communication interne, ça s'est quand même assez bien déroulé. On a eu des petites visios avec le bureau d'études parce qu'ils ne savaient pas tout le temps se déplacer. Donc, ce qu'on faisait, c'est des petites visios d'une demi-heure, une heure avec les différents services pour qu'ils expliquent vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça se passait, quelles étaient les actions qu'ils étaient en train de mener pour pouvoir vraiment avoir un plan d'action qui, on va dire, qui ne vient pas de nulle part, mais qui tient compte de ce qui est déjà fait au sein de la ville parce que ce serait dommage de ne pas valoriser ce qui est déjà fait. Et à côté de ça, on a rencontré une problématique, c'est que pour pouvoir atteindre 100% de réduction d'émissions de CO2, c'est vraiment super ambitieux. Et puis, il y a toute la problématique des logements au sein de la ville de La Louvière, parce que ce n'est pas uniquement les actions communales qu'on tient compte, ce sont vraiment toutes les actions qui sont reprises sur le territoire de la commune. Et donc là, c'était problématique de pouvoir atteindre 100% en ne tenant compte que du scope 1 et 2. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour Net Zero City, on a tenu compte de tout ce qui était scope 3, donc analyse de cycle de vie, alimentation durable. On a implémenté des actions dans ce sens-là, parce qu'on faisait déjà des choses à ce niveau-là et qu'on s'est dit, en fait, si on tient compte juste des émissions, là, c'est vrai que c'est un peu complexe. On en a discuté avec la coordinatrice européenne qui nous chapeaute et qui nous donne des informations sur certains points. Et elle nous a dit qu'en théorie, il n'y avait pas de souci, on pouvait agir de cette façon-là. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment réellement 100%, mais ce sont des objectifs qui sont quand même ambitieux. Et donc voilà, là on a agi dans ce sens-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rencontré les acteurs de terrain, comme par exemple Bipost, comme la Tech. On a rencontré IDEA, IGA, et en fait on a essayé de... et encore d'autres, hein. On a essayé de vraiment aussi voir ce que les entreprises qui étaient présentes sur le territoire faisaient déjà elles-mêmes comme action en faveur des réductions d'énergie et du climat. Et alors du coup, on leur a proposé en plus de signer une charte d'adhésion qui est à rendre aussi pour le projet Net Zero City. Donc en fait, on doit avoir des acteurs du territoire qui viendraient signer cette charte qui les engagerait à, en effet, eux aussi, agir pour réduire les émissions de CO2 sur le territoire. Et ce qui était très chouette et très positif, c'est que de façon globale et générale, les acteurs du territoire qu'on a rencontrés, ainsi que les personnes au sein de l'administration, les gens étaient assez dynamiques et positifs, d'autant plus qu'il y avait souvent une grosse partie des choses qui étaient déjà réalisées. Et donc les gens disaient, oui, en effet, on le fait déjà, donc on peut adhérer, on peut vous soutenir et on peut donner du poids à votre projet, quoi. C'est vraiment le but de cette charte. Et donc, du coup, on a mis tout ça en place. Ici, on est en train de finaliser les actions et le plan pour tout mettre en œuvre. Mais alors, un petit point, un gros point qu'on a mis en avant, c'est que les objectifs de ce plan devaient vraiment, d'abord, dans un tout premier temps, remplir les objectifs du PAEDC.
Mmh. Donc les 55%.
Exactement. Mmh. Parce que ça, c'est vraiment une priorité pour la commune. On s'est engagé et il faut absolument qu'on les atteigne pour 2030. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'était les actions qui reprenaient le scope 1 et 2, qui étaient les plus faciles, on va dire, à réaliser et réalisables dans un délai de temps le plus court possible. On les a mis dans le PAEDC de façon à vraiment les faire en priorité, en toute priorité. Et ensuite, on a le complément qui vient pour Net Zero City. Et là, nous, on s'est fixé comme objectif 80% en tenant compte qu'il pouvait y avoir 20% de compensation avec, on va dire, la verdurisation. On sait que c'est pas énorme, la verdurisation, comme impact, mais c'est toujours ça en plus. Et 100%, on s'est dit, clairement... c'est un peu très très ambitieux, donc on va fixer 20% d'action, 80% d'action et 20% de compensation. Et ici, on est en train de définir un peu comment fixer ces actions. Et pour les pourcents restants pour Net Zero City, eh bien là, on a pris en compte les actions plus conséquentes, les actions moins faciles à réaliser dans un délai de temps court. Et en fait, on s'est dit, au pire du pire, si jamais on n'atteint pas les 80% en 2030, eh bien, c'est pas grave, on les a quand même pour pouvoir continuer après vers 2040, 2050. Enfin, ce sont des objectifs qui pourraient s'étaler dans le temps. Et donc, d'une certaine façon, si on n'y arrive pas demain, c'est pas encore... enfin je vais dire trop grave, mais ça fait partie des objectifs, mais je veux dire, on les laisse pas tomber pour autant, on les garde.
C'est pas des objectifs contraignants au niveau de l'Europe en disant, voilà, si vous recevez des financements et que vous n'atteignez pas l'objectif, vous devez rembourser, ou bien comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là?
Ben voilà, ça on s'est renseigné aussi parce qu'on avait peur. En fait, le problème qu'on rencontre, c'est que dans les objectifs qu'on s'est définis, les actions qu'on s'est définies, en fonds propres avec la ville, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Mais maintenant, on espère. En fait, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on devient ville labellisée Net Zero City, on peut aller chercher des financements européens, on peut avoir des prêts plus conséquents et on peut, on peut avoir un financement plus important de diverses manières. Et donc, en fait, ce vers quoi on va, c'est plutôt se dire, eh bien voilà, on va aller chercher ces financements et on va mettre les actions en place. Ben maintenant, il se peut que, par exemple, on n'ait pas les financements qui correspondent aux actions, et donc dans ces cas-là, ben, ces actions-là seront, on va dire, pas réalisées tout de suite. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on s'est mis dans la tête, c'est que, bon, ici on a fait un plan idéal qui pourrait fonctionner sur la ville de la Louvière, mais tout en sachant que s'il n'y a pas de budget ou s'il n'y a pas de main-d'œuvre, eh bien ça risque de limiter l'une ou l'autre des actions qu'on a mis en avant et qu'on aimerait réaliser d'ici 2030. Et on est aussi très conscient que bah, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut engager des personnes supplémentaires, il faut des financements supplémentaires que la ville ne sait pas supporter. Mmh. Et donc du coup, ben, voilà, c'est ça qui... ce sont les points bloquants et limitants, on va dire, de ce projet, quoi. Et c'est pour ça qu'on se dit, ben, voilà, on est conscient que peut-être tout ne sera pas réalisable, et maintenant peut-être que des choses qu'on n'a pas comptabilisé dans notre plan d'action vont se réaliser et vont pouvoir venir compenser. Voilà, c'est ambitieux, on a de l'ambition, maintenant à voir concrètement comment ça va se passer, quoi.
Tu parles effectivement d'ambition. Au moment de la signature justement de la participation au programme, est-ce que c'était... d'où est venue l'ambition? Est-ce que c'était une ambition de terrain? Est-ce que c'est venu d'une volonté politique? Un petit peu comment ça s'est dessiné? Parce que c'est vrai que de ce que j'entends, il y a finalement, ok, on y va, on n'est pas encore sûr très bien comment, mais on va y aller, et puis on construit le plan au fur et à mesure, ce qui peut avoir un intérêt, hein, parce que c'est, ouais. On peut aussi se dire, allez, on y va, on va essayer. J'ai l'impression que c'est un peu aussi l'idée du plan, c'est on va essayer de montrer que on peut foncer et essayer d'y aller le plus vite possible.
Mais en fait, de base, c'était plutôt une volonté politique qu'administrative, parce que nous, on était... Enfin, si j'ai bien compris, c'était un peu avant que j'arrive, hein, mais donc ils m'ont dit, bah, eux avaient quand même déjà pas mal de travail, donc répondre à cet appel à projet, c'était conséquent. Et puis, c'était un projet quand même, on va dire, très, très ambitieux. Et donc, avec des ressources nécessaires pour pouvoir le mettre en place. Donc, dans un premier temps, l'administration était un peu réticente. Mais le politique a un peu poussé le projet et a soutenu le projet. Donc, on y a répondu. Et par la suite, bah, comme on a été sélectionné, on y est allé. En effet, on construit petit à petit et on se rend compte que... ben, il y a quand même à chaque fois... comme c'est hyper ambitieux, on se rend compte qu'il y a énormément de points qui pourraient, on va dire, faire un peu capoter le projet. Ici, on est en train de finaliser
le projet. Tu peux nous donner un peu un ou deux exemples, par exemple, de points parfois un peu bloquants?
Ben, ici, par exemple, on était en train, donc avec le bureau d'études, on a présenté le projet aux politiques, enfin, surtout au comité de direction, et ils étaient un peu braqués en disant, oh, mais... on va devoir compenser, ça veut dire qu'on va devoir dépenser de l'argent pour compenser quelque chose, c'est 20%, c'est combien de millions d'euros, est-ce que ça va fonctionner? Et là, ils s'étaient dit, est-ce qu'on doit vraiment continuer ce projet ou pas? Est-ce qu'on laisse tomber? Et là, on les a un peu rassurés en disant, ben voilà, on a discuté avec la coordinatrice européenne qui nous a expliquer que normalement il n'y aurait pas de conséquences, donc on va dire on doit plutôt prendre ces 20% de compensation comme un projet. Si on n'a pas le budget pour mettre le projet en place, il se peut qu'on ne le mette pas en place. Et donc on a un peu expliqué ça au comité de direction ainsi qu'au pouvoir politique, parce qu'ils étaient très réticents. Enfin, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait 20% de compensation, ils se sont dit, oh, mais non, on ne va pas faire ça, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça. Et puis après, quand on leur a expliqué, ben voilà, c'est un peu fictif, c'est pas vraiment réel. Ils se sont dit, ah ok, d'accord, alors on peut poursuivre le projet. Mais sur le coup, il y a eu un petit lever de bouclier en mode, on va peut-être pas continuer ce projet. Alors si on doit vraiment dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour finalement faire quelque chose qui ne reviendra pas bénéfiquement à la commune, est-ce que ça a du sens de continuer dans ce sens-là? Et donc c'est ça, des fois il faut convaincre et il faut... Enfin, faut leur expliquer aussi, et puis d'une certaine façon, c'était de base une volonté qui venait d'eux, donc on leur a dit, ben voilà, ça fait pas un moment qu'on travaille dessus.
C'est vous qui avez décidé ça, donc maintenant vous assumez.
Et donc, mais c'est vrai qu'en expliquant et en relativisant un maximum, on va dire, bah ça les rassure et ça nous permet d'avancer. Mais non, c'est pas sûr qu'on va avancer et que ça va fonctionner super bien, mais on va dire, on reste motivé, quoi.
C'est sûrement le plus important, ouais. Tu disais quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est la question du financement. C'est que non seulement ça vous ouvre la porte à des financements européens, des financements plus potentiels, donc ça c'est un aspect intéressant, mais aussi tu disais ça ouvre la porte à des emprunts, finalement à des taux plus intéressants auprès des institutions parce que la ville est reconnue comme Net Zero Cities.
Apparemment oui, c'est ce que j'ai compris dans l'appel à projet.
Et c'est ce que l'Europe met aussi en avant, parce que j'ai okay. La même information ici pour le VUND, que en effet participer à ce projet permet, alors je n'ai pas pu creuser le sujet, mais permet d'attirer les investisseurs.
Voilà.
En fait, ce serait je vois un peu ça comme une sorte de gage de qualité approuvé par la Commission européenne, PAM, et ça donne une visibilité à ce moment-là peut-être sur le marché.
Oui, mais c'est une forme de labellisation, comme voilà, aujourd'hui les villes ont aussi, les villes, les États ont des étiquettes AAA ou AB, etc. Et ça leur permet d'avoir effectivement sur les marchés des taux plus ou moins intéressants en fonction de la qualité, mais en tout cas des programmes perçus des villes, quoi.
Après, nous ici, on n'est pas encore labellisé. On doit rendre tout ce qui est livrable pour le 15 septembre 2024. Donc, on doit rendre notre plan d'action, un plan d'investissement et donc cette charte signée par les acteurs du territoire. Et sur base de ça, l'Europe va étudier la qualité des documents que nous aurons fournis et définir si oui ou non on pourra être labellisé et si notre plan tient la route, quoi. Donc c'est pas encore sûr. Ouais.
Allez.
Et justement, au niveau des livrables, est-ce que c'est fort différent de ce que vous devez faire pour Polec? Qu'est-ce qui change un peu à ce niveau-là?
Donc ici, ce sont les livrables à rendre pour être sélectionnés, mais j'avoue qu'après, pour le suivi du projet, je ne connais pas les livrables à rendre au fur et à mesure du temps. Il faut que ça, je dois encore...
Dans le même ordre d'idée, parce que je me posais la question pendant que tu parlais, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits institutionnellement entre la Convention des maires et ici le programme Net Zero Cities?
Ça, je ne sais pas non plus.
Ok. Je pense que, enfin, t'en as fait spontanément en disant que votre plan d'action ici, ce sera votre PEDC, ce qui est d'ailleurs très malin. Mais je me demandais si eux, institutionnellement, ils étaient allés un cran plus loin, parce que j'ai du mal à imaginer que toutes les villes qui ont été mentionnées ne font pas partie de la Convention des maires.
Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ouais.
Ça n'aurait pas beaucoup de sens, et il y aurait des telles synergies à pouvoir appliquer, mais...
C'est différent, hein. Au niveau européen, c'est des programmes différents. Donc, il n'y a pas de lien institutionnel. Non, évidemment que les villes qui sont avancées dans la Convention des maires, mais sont des villes plus facilement engagées dans cet appel-là. Mais sinon, il n'y a pas de lien fonctionnel au niveau européen.
Mm-hmm. Zut.
Une occasion. Okay.
Voilà, si vous connaissez un eurodéputé qui écoute notre podcast, voilà, petite idée à lui glisser à l'oreille.
Tu as mentionné qu'il y avait une coordinatrice européenne, donc quels sont un petit peu aussi, au-delà de la reconnaissance, les avantages à faire partie finalement de ce programme, quel type d'accompagnement vous avez? Je sais qu'il y a Il y a un portail qui est un peu la porte d'entrée, mais...
Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'avoue qu'on ne l'a pas énormément sollicité jusqu'à présent. Mais tout au long, on va dire, quand on a défini le bureau d'études, on en a discuté. Donc, elle s'appelle Denise. On en a discuté avec elle. On lui a expliqué... Enfin, ce qu'il y a eu aussi comme problématique, c'est qu'au départ, il y avait un coordinateur européen qui a changé, puis qui a encore changé. Et donc, du coup, ben, à chaque fois, il fallait un petit peu réexpliquer. Mais heureusement, ben, comme on n'avait pas beaucoup avancé sur le projet avant que j'arrive, enfin, pas avant que j'arrive, mais avant qu'on lance vraiment le projet et qu'on travaille avec le bureau d'études, ben, ça a été assez simple de résumer à Denise ce qui s'était passé. Donc, on lui a résumé, on lui a dit un petit peu comment on aimerait travailler, on lui a expliqué qu'on aimerait ajouter les scopes 3. Le scope 3 dans le plan d'action, elle n'était pas contre, elle a dit tant que le plan d'action tient la route, il n'y a pas vraiment de souci. Et donc, à terme de temps, on lui faisait des petites réunions de débriefing, on l'a aussi mis en contact avec le bureau d'études pour qu'eux aussi puissent exprimer leur vision et voir si c'était en accord avec ses attentes, parce qu'on s'est dit, c'est pas non plus le but de se projeter dans un truc et finalement aller droit dans le mur et être complètement à côté de ce que l'Europe voudrait. Donc on l'a tenu informé, et je sais qu'il y avait aussi, enfin qu'il y a à terme de temps des petites réunions intéressantes, par exemple pour tout ce qui était point compensation, ils ont fait une vidéoconférence en expliquant les différents points comment compenser. Et donc il y a à terme de temps des petites vidéoconférences qui portent sur un sujet et qui peuvent être suivies par les villes qui participent justement au projet, donc ça c'est assez intéressant. Et alors on a des interactions, enfin elle est disponible au cas où on a besoin, mais c'est vrai qu'on l'a pas énormément sollicité. C'est peut-être une erreur de notre part, on aurait peut-être dû être plus proactif envers elle, mais ce n'était pas le cas, j'avoue.
En préparant l'émission, tu m'avais dit qu'il y avait aussi eu des rencontres, par exemple, avec les villes belges qui participent au programme.
Alors,
aussi
une fois, on s'est rencontrés à Bruxelles, dans les bâtiments, je pense que c'est de l'Europe. En fait, là, donc, on a rencontré Leuven, Anvers et Bruxelles. Enfin, on s'est rencontrés tous les... On est venus les quatre villes se sont rencontrées, et en fait on a débriefé un petit peu avec les responsables européens en disant nous on avance sur ce sujet là, on a mis en place des actions, enfin on va mettre en place des actions, notre plan avance de cette façon là. Et en fait à chaque fois chaque ville a pu un peu débriefer et apporter des informations sur comment est-ce qu'elle se développait. C'était assez impressionnant parce que par exemple Leuven, ils ont eu une vraie armée qui travaille sur ce projet.
Oui, ça va nous en parler, effectivement.
Ouais. Ils sont nombreux et on voit que ça fait longtemps qu'ils bossent sur le sujet. Donc c'est vraiment du costaud qu'ils envoient, quoi. À Bruxelles, eux, c'était la région qui représentait le projet. Donc là aussi, c'était impressionnant. Et nous, après, il y avait Anvers qui était un peu une plus petite ville, mais qui malgré tout... est quand même très conséquente.
Oui, ça reste une grande ville aussi. Oui.
Et puis, il y avait nous.
Un million d'habitants.
Oui, c'est plus grand que nous.
Petite ville.
Ah, oui.
C'est la deuxième ville du pays, non?
C'est la deuxième.
Je crois.
Ah, ouais, je pense.
Ça a même été la première pendant du temps.
Charleroi, c'est la deuxième ville
du pays.
Après, ça dépend si on parle de commune ou d'agglomération. En termes d'agglomération, c'est la deuxième agglomération.
Ah, ok, d'accord.
Enfin voilà, ouais, bah, c'était impressionnant. Après, c'était sympa d'entendre ce que les gens racontaient. Mais...
Justement, par rapport à ça, moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, dont j'entends bien votre intégration de cette démarche-là au PAEDC et la dynamique wallonne, maintenant sur le terrain, déjà les 55%, il y a beaucoup de communes qui doutent de pouvoir y arriver, et je ne vais pas me présenter là-dessus. La ville de la Louvière s'engage au-delà. Vous avez bien dit que ce n'était pas un objectif obligatoire, mais que vous tendiez vers. Est-ce que tu pourrais illustrer concrètement quels sont les deux ou trois projets par secteur que vous estimez, en plus de la démarche POLEC, parce que même si on doit garder le fonds de POLEC qui est super bon, vous devez aller plus loin. Donc qu'est-ce que vous avez envisagé concrètement pour espérer aller au-delà des moins 55% d'ici 2030?
En fait, il y a tout ce qui est, par exemple, repas dans les écoles. Donc pour tout ce qui est alimentation durable, on essaye d'aller plus vers du bio et d'introduire des repas végés une fois ou deux par semaine dans les écoles pour dire de...
Bio local.
Oui, c'est ça. Parce
que si ça vient d'Israël ou d'Australie,
on va dire plutôt
on
locaux.
Perd un petit peu le CO2.
C'est ça. Et donc, en fait, ce serait vraiment d'amorcer ce genre de réflexion et d'inculquer, pourquoi pas, aux enfants le goût des légumes et puis faire un repas plus léger sur la journée. Comme ça, le soir, ils mangent complet, par exemple, avec leurs parents. Un repas végé plus léger sur le temps de midi, ça peut être une piste. On a aussi étudié tout ce qui était publicité. Donc avec le bureau d'études, ils nous ont proposé de faire plutôt des publicités pour tout ce qui est publicité bas carbone, et donc ne pas mettre en avant sur les panneaux publicitaires le fast-food, tout ce qui est voyage en avion, firme Ryanair, Tui... Et donc du coup, ben, ce serait un petit peu de reprendre la publicité chez nous et de plutôt valoriser les petits commerces, la production locale, que ce soit alimentaire ou même d'artisanat, et justement de mettre en avant cette publicité au sein de ce qui se passe dans la ville. Après, qu'est-ce qu'on avait...
C'est vrai que c'est un élément qui est souvent sous-estimé. Je sais qu'en France, c'est Grenoble, c'est une des premières villes et quasiment la seule à avoir mis ça en place.
C'est même carrément interdit la pub.
Oui, là, ils ont été encore un cran plus loin, mais je pense que c'est pas quelque chose qui a des effets à très court terme ou qu'on peut monétiser de manière concrète, mais ça reste malgré tout important, quoi.
C'est ça. En fait, le problème, c'est que des fois, c'est pas toujours très quantifiable rapidement, quoi. Et donc, pour définir les fiches d'action, des fois, c'est un peu bloquant, quoi. Mais le bureau d'études, c'est basé sur des résultats théoriques où ils estiment que un certain nombre de panneaux publicitaires bas carbone pourraient, enfin. Aller induire chez les citoyens une envie d'aller plus vers du local. Et puis informer, faire en sorte que les citoyens soient plus au courant de ce qui se passe vraiment au sein de la ville. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a plein de petites actions hyper chouettes, même des groupements citoyens qui se mettent en place, qui finalement ne sont pas portés, dont on ne parle pas. Et la moitié des citoyens l'Auvergne ne sont pas au courant. Donc pourquoi pas utiliser ça comme un plus pour la publicité. Il y avait aussi tout ce qui était revalorisation. Enfin, ils ont proposé une station de biométhanisation avec la valorisation des déchets verts. Et donc là, il faudrait qu'on puisse contacter les entrepreneurs de parcs et jardins qui habituellement, eux, vont jeter leurs déchets au parc à conteneurs. Enfin, en payant, quoi, parce que c'est un déchet pour eux, et bien ce serait de les récolter sur le côté et de pouvoir les traiter pour en faire ou de la biométhanisation, et pour le bois, faire des plaquettes pour pouvoir faire fonctionner des chaudières. Donc, ça, ce serait un gros projet de mise en place d'une plateforme de réalisation de plaquettes bois. Mais ça, c'est vraiment plus conséquent et il faut étudier la faisabilité sur la ville de la Louvière. Il y a aussi tout ce qui est mise en place de réseaux de chaleur. Donc il y a une action qui proposerait la mise en place d'un réseau de chaleur sur la ville de la Louvière. Pour le moment, le service travaux a justement répondu à un appel à projet pour étudier cette possibilité. Donc on espère que ça soit positif et que ça puisse aller plus loin. Enfin voilà, il y a plusieurs actions de ce type qui sont mises en avant, quoi.
Si ça t'intéresse, toute la filière école du goût, je te renvoie vers le Pays Qatar, qui a émis une quinzaine d'années un projet label Pays Qatar, et un des projets phares, c'était l'école du goût. Donc depuis les écoles maternelles jusqu'à l'université, c'était de ne proposer que des repas 80% provenant du territoire du pays Qatar. Et donc là, il y a pas mal de travail qui a été fait, d'études, de calculs, de résultats, d'expériences qui pourraient vous faire avancer plus vite. Et concernant la plateforme de biométhanisation et de plaquettes, il y a l'entreprise MAS, qui est situé à la Louvière, qui a déjà pensé à tout ça il y a une dizaine d'années aussi, et donc ils ont déjà le matériel pour s'occuper de tout ça, et donc si vous voulez lancer ou si vous avez déjà vu, c'est peut-être aller le rencontrer.
Ouais, en fait, on travaille justement déjà avec eux pour tout ce qui est gestion des espaces verts, donc en théorie, ça...
Les contacts sont pris
normalement. C'est juste pour Henri qu'il y a déjà des choses qui se passent, et que c'est, enfin, pour moi c'est le nerf de la guerre sur ce type de perspective quand on veut tendre vers des territoires qui sont neutres ou en tout cas le moins émetteur de CO2. La première chose à faire, c'est déjà de savoir ce qui s'est passé ailleurs et surtout ce qui se passe sur son territoire, et on se rend compte finalement qu'on découvre tous les jours des choses positives sur le territoire et que c'est plutôt ça qu'il faut essayer de chercher de mettre ensemble pour effectivement atteindre les objectifs qui peuvent paraître un peu lointains.
Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que juste la ville, les objectifs sont quand même conséquents. Par exemple, pour tout ce qui est publicité, on va essayer de collaborer aussi avec la tech qui ont des panneaux publicitaires sur leurs abris de bus et de voir comment est-ce qu'on peut interagir. Et puis après, on a des...
La ville peut prendre un décret. À Grenoble, c'est ce que Marc donnait comme exemple. Là, c'est la ville qui a pris un décret qui dit on a interdit la publicité comme ça. Donc, ce n'est pas négociation avec les gens qui ont les supports. C'est faire une loi, un cadre légal qui dit sur le territoire de la commune, ben, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Ça, la commune a tout à fait le pouvoir de le faire.
Après, si c'est vrai que le cadre, il est plutôt collaboratif. En tout cas, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est ce qui ressort très fort. Il y a vraiment une idée de collaboration à la fois avec les acteurs locaux, mais aussi potentiellement, du coup, entre les ville et l'Europe. Et une chose aussi qui me marque finalement dans ce que tu présentes, c'est que les projets, je ne dis pas ça négativement, mais il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, c'est d'accumuler en fait toutes les solutions pour tendre vers les 80 ou 100% ou un peu... ça dépend comment on les compte, mais en tout cas, essayer d'aller plus loin. En fait, c'est ça l'idée aussi. Je propose qu'on avance un petit peu, mais tu vas évidemment pouvoir continuer à intervenir. On parlait de réseautage en parlant de la réunion avec les villes aussi. Et donc, j'ai vu notamment qu'il y a une grande convention en fait avec les Mission Cities qui aura lieu le 25 et 26 juin à Valence, en Espagne. Vous y allez ?
Non,
pas c'est une mesure pour réduire justement leurs émissions.
Voilà, c'est ça.
Ou en l'occurrence celle de Charleroi.
Voilà.
Oui, mais l'aéroport est situé.
Ah oui,
c'est vrai.
C'est le qui s'engage en net zéro, c'est pas Charleroi. C'est pour ça qu'elle a quitté Charleroi. J'étais pas assez ambitieux.
Mais donc, en tout cas, ça fait partie des activités, des choses qui sont organisées ici pour ces villes. Et le deuxième élément, donc, c'est ces fameuses villes jumelées. Et donc, tu veux nous expliquer un petit peu, Aurélie, à quoi ça correspond, les villes jumelées. Voilà.
Oui. Donc, à moi de vous présenter ce sujet. Alors, si vous ne le connaissiez pas, je vous rassure, moi non plus, avant d'entamer mes recherches pour ce podcast. Donc, pour dépasser un petit peu la dimension climatique, j'ai voulu faire un petit peu d'histoire. Donc, j'ai lancé des recherches historiques sur le jumelage. À savoir qu'on note le premier jumelage au 9e siècle, je vous le dis. Donc, c'était un jumelage entre la ville du Mans et une ville allemande, Paderborn. Donc, c'était un jumelage religieux, en fait, qui permettait l'échange de reliques. Mais c'est vrai que finalement, le jumelage, on a vraiment commencé à en parler suite à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc, beaucoup de villes, à ce moment-là, ont commencé à jumeler des villes d'Europe avec d'autres villes d'Europe, notamment beaucoup de villes d'Allemagne. Alors, on peut imaginer évidemment qu'à cette époque, il y avait quand même cet objectif de stabilité, d'entente, d'un climat, si je puis dire, d'entente entre les villes et les pays européens, pour éviter tout autre conflit. Alors même si, évidemment, ces jumelages n'étaient pas faits par hasard, donc on essayait toujours de jumeler des villes qui avaient un espèce de tronc commun, qui soit économique, géographique, folklorique ou autre, pour leur permettre finalement de profiter des expériences, des connaissances des autres. À ce titre, et en toute bonne tournaisienne, je me dois de vous citer également le premier jumelage suite à la Seconde Guerre mondiale, qui était un jumelage entre Tournai et la ville de Troyes en 1951. Alors pour l'exemple, ici, le tronc commun, c'était les industries textiles, donc les dames parce que c'était des dames qui travaillaient dans les bonnetteries de Tournai, ont pu profiter de l'expérience à trois et finalement de rendre leur travail moins fatigant et plus rémunérateur. Donc on voit le côté un peu positif de ces jumelages déjà à cette époque-là. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est élargi. Il y en a eu de plus en plus. Aujourd'hui, en Belgique, je ne sais même pas, je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais quasi la totalité des villes belges sont jumelées avec une autre ville. Et on a dépassé les frontières de l'Europe parce que c'est avec des villes aux quatre coins du globe, finalement.
Oui, c'est vrai, quand on arrive dans les villes, on voit souvent le nom de la ville et puis jumelé avec deux, trois, quatre villes.
Voilà, ouais, c'est ça. Parfois plusieurs. On ne se cantonne pas à un jumelage, c'est parfois plusieurs, comme je le disais, sur différentes thématiques, entre guillemets, économiques, folkloriques. De nouveau, comme petite anecdote, et je vous assure, je ne vous mens pas, j'ai fait des recherches sérieuses à ce sujet, je peux vous citer... Je vous les enverrai, bien sûr. Un jumelage entre deux villages en France, je ne sais plus dans quelle région, honnêtement, le village d'Avril et le village de Poisson. Donc, chaque année... Le 1er avril, évidemment, tous les habitants de ces villages se réunissent pour fêter l'anniversaire de leur jumelage, une fois chez Nain, chez Avril, une fois chez Poisson. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote, mais... tout ça pour dire que finalement, comment on peut définir ces jumelages, c'est un partage, c'est rassembler deux villes, même si de temps en temps, on se rend compte que vient se greffer une troisième ville, relation tripartite, de trouble, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais donc. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est de partager finalement des connaissances, toujours des bonnes pratiques, des expériences, des projets pour favoriser le travail dans l'une et l'autre ville. Et c'est ce dont il s'agit évidemment dans le Training Program Net Zero Cities. Donc l'idée, c'est de mettre en relation deux villes pour qu'elles puissent profiter à l'une à l'autre. Alors ici, l'idée principalement, c'est qu'il y ait une ville pilote, notamment en Belgique, nous avons toujours la ville de Louvain, qui s'est proposée en tant que ville pilote, qui a été d'ailleurs associée, c'était en 2023, avec Westminster et la ville de Lund en Suède, donc pour partager ces expériences. Mais à savoir que ça peut aller aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que la ville jumelle, on va l'appeler comme ça, peut faire profiter aussi de ses projets, de ses bonnes pratiques, de ses freins, de ses obstacles à la ville pilote. Alors de quoi il s'agit concrètement? C'est un programme de 20 mois où donc ces villes seront invitées à échanger sur des activités principales de la ville pilote. Et donc ça se fera sous forme de modules, de réunions en ligne, mais aussi de visites sur terrain. Donc la ville jumelée va se rendre dans la ville pilote pour aller voir sur place comment les projets se sont mis en place. Plan d'action aussi à remettre, si on parle de livrables, de la ville jumelée, donc qui va devoir rendre un plan d'action avec problèmes, solutions, comment transférer les connaissances de la ville pilote à la ville jumelle, et puis comment mettre tout ça en œuvre sur son propre terrain finalement.
Alors si on en parle aussi spécifiquement, c'est parce qu'il y a un appel qui est toujours... en cours.
J'y venais, exactement.
Tu fais la transition.
Donc, en effet, il y a eu une première cohorte, je le disais, en 2023, où il y a eu 40 villes sélectionnées pour ce jumelage, dont Louvain, je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, appel à projet, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, appel, en tout cas, au jumelage, voilà, candidature, donc pour un nouveau twining programme. Donc, cet appel a été ouvert au mois d'avril, mais l'est jusqu'au 31 mai. Alors, ça fait très, très court, mais quand même, il y a peut-être encore moyen que certaines villes y répondent, parce que j'ai été vérifiée quand même un petit peu qu'est-ce qu'on devait rendre pour sa candidature. Donc, il faut répondre à un formulaire en ligne qui se trouve sur le site de Net Zero Cities, mais qui est assez succinct. On va vous demander des informations générales sur votre commune, ça c'est assez simple. Après, votre vision climat, je pense que c'est assez simple, vous en avez toute une déjà. Et alors surtout, l'idée de sélectionner des activités principales sur lesquelles vous aimeriez échanger des bonnes pratiques. Et donc vous allez devoir noter de 1 à 5, sur une échelle de 1 à 5, quelles villes vous paraissent, parce qu'il y a un catalogue de villes, vous devrez aller choisir 5 villes avec lesquelles vous aimeriez commencer éventuellement ce partage d'expérience. Donc, je disais jusqu'au 31 mai, il est encore temps d'y répondre. Voilà. Des autorités locales d'Europe, ça me paraît clair, mais quand même aussi des pays partenaires Horizon Europe. Je vais pas vous faire la liste maintenant. Oh. Ah, je l'ai, hein. Je peux, hein. D'accord. Pas de soucis.
On vous mettra la liste dans les notes.
Albanie, non. Je... Donc, elles ne doivent pas faire partie de ces 112 communes tu parlais, les villes missions. Mm-hmm. Hein,
N'importe quelle ville, toutes nos villes collègues pourraient décider de participer.
Je pense qu'ici, chez vous, toutes, vous pouvez y répondre. Vous devez avoir inscrit l'engagement climatique, c'est fait dans votre programme. Et alors, vous devez garantir, tu le disais, le problème parfois des ressources humaines. Donc, la ville doit pouvoir garantir qu'il y ait des ressources humaines disponibles. Il faut 1 à 2 référents qui vont se charger de cette mission, minimum 12 heures par mois. Hein, voilà. Et ils doivent parler anglais. Je suppose que les échanges se font toujours.
En grosse partie, en tout cas avec Denise, oui, ça se fait en anglais. Maintenant, avec le bureau d'études, ça va. Mais les documents qu'on va devoir rendre, oui, sont faits en anglais.
Ouais.
Donc,
ouais, voilà.
Non, mais c'est vrai que ça peut être un frein parfois dans certaines communes.
Tout à fait. Tout à fait.
Maintenant, il y a des solutions d'intelligence artificielle qui
tout
peuvent aussi aider largement.
Testé hier. Et la candidature doit être individuelle, donc je parlais de relations tripartites, je vais le dire comme ça. Oui, ici, ils favorisent vraiment une relation double, enfin bipartite, hein, que ça soit une ville pilote, une ville jumelle. Alors, à savoir aussi que vous pourriez très bien, bon là, il n'y en a pas de candidate, la Louvière n'était pas candidate pour être ville pilote, mais vous pouvez très bien vous jumeler avec une ville belge, mais ils vont toujours favoriser, le consortium va toujours favoriser quand même des relations internationales. Il faut quand même le savoir. Est-ce que j'ai tout dit ? Non. Alors, petite checklist quand même, parce que l'idée, c'est, si vous le souhaitez, c'est de vous motiver à y répondre, à cet appel. Donc, je le disais, formulaire en ligne, assez succinct, n'ayez pas peur, allez le voir, tout est là. Petite checklist, confirmer que vous êtes éligible, je pense que vous l'êtes toutes. Tous et toutes, s'assurer du temps disponible, des ressources humaines. Lisez attentivement le guideline que j'ai lu attentivement avant d'écrire ce texte, il est en ligne également. Parcourir attentivement aussi le catalogue des villes pilotes et des activités, des projets qu'elles proposent, parce que c'est surtout là que vous allez travailler et c'est là que vous allez trouver votre source d'inspiration. Assister au webinaire de session qui avait lieu au mois d'avril. Bon, il est en ligne, donc vous pouvez le visualiser, il n'est pas trop tard. Et toutes, on disait, toutes les candidatures doivent être soumises en anglais, mais vous pouvez y attacher votre plan d'action en français, vous n'aurez pas à le traduire.
Ça, c'est déjà un bon élément.
Voilà.
Ben voilà. C'est vrai qu'au final, ça paraît relativement simple. Je ne sais pas si la candidature, quand vous avez dû postuler comme Mission City, c'était compliqué, mais j'ai l'impression qu'on va plus essayer d'attirer finalement les villes sans trop remettre de dossiers immenses. C'est pas un appel à projet wallon, quoi. Pardon.
Il y aura d'autres appels certainement, et un jour vous pourrez peut-être vous positionner aussi, parce que vous avez quand même pas mal de choses. Vous aurez sans doute beaucoup de projets à partager.
Mais je sais que Denise nous a proposé justement de devenir ville pilote, mais pour devenir ville pilote, il y avait là beaucoup de documents à remplir.
Ah voilà.
Et c'était un délai, je pense qu'on avait 2 ou 3 mois pour remplir les documents. Et étant donné qu'on travaillait déjà sur notre plan d'action et sur la mise en place justement, enfin. La recherche d'informations dans tous les services, c'était pas possible de compiler, enfin, de faire les deux en même temps. Donc c'est ça qu'on a discuté en interne et on s'est dit c'est intéressant mais beaucoup trop énergivore pour le moment. Donc on s'est dit si jamais par la suite ça viendrait à être repartagé, parce que je crois que c'était déjà quand même la troisième fois qu'ils partageaient.
Jumelage, c'est la deuxième ici.
Oui, c'est la deuxième cohorte de jumelage, mais il y a eu trois cohortes. C'est la troisième cohorte, effectivement, pour les villes pilotes.
C'est ça, et donc on s'est dit, maintenant, on espère que grâce au plan qu'on va mettre en place, on va pouvoir comptabiliser beaucoup plus facilement. Enfin, surtout que maintenant, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité énergétique au sein de la commune. On espère avoir des données vraiment plus qualitatives et donc du coup pouvoir implémenter beaucoup plus facilement ce genre de documents et avoir les moyens d'y répondre, on va dire, plus ou moins facilement. Mais ici, non, c'était pas réaliste.
Ouais, donc il y a quand même une candidature à poser pour devenir ville pilote. Et, je me posais la question, c'est ça, j'avais pas vu. Donc, c'est pour l'info.
On l'entend bien, c'est quand même pour beaucoup de choses, ce sont les ressources humaines qui. ils sont un élément clé et qui est peut-être un élément clé de la réussite, en tout cas, de Leuven qu'on a entendu, qui est cité et recité et re-recité en exemple. Et François, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi on les met autant sur un piédestal.
Tout à fait. Alors c'est bien, cette mission échoit à la personne qui a grandi à Louvain-la-Neuve. Je vais vous parler non pas de Louvain, pour éviter toute confusion, mais donc de Leuven. Leuven qui a été récompensée en 2023. Elle fait partie donc des 100 villes Climate Neutral and Smart Cities. Mais elle a été récompensée parmi 10 villes pour la qualité de son plan climat. Et dans ces 10 villes, excusez des petits noms, on retrouve Madrid, Stockholm, Valence et donc Leuven dans ces 10 villes européennes. Je vous évite toute la liste aussi. Il y a une question qui a été posée. Quels sont les avantages finalement de faire partie de ce réseau de villes ? Comme je viens de le dire déjà, c'est de faire partie d'un réseau et de pouvoir profiter des expériences des uns et des autres, des unes et des autres, puisqu'on parle de villes. Mais ça permet également, comme tu l'as déjà mentionné, de bénéficier de conseils d'experts de la Commission européenne, d'attirer des investisseurs, on a déjà mentionné cet aspect-là, en effet, mais de favoriser l'implication citoyenne et des parties prenantes. Vous verrez, dans le cas de Leuven, ils ont poussé le modèle très très loin, et surtout ça offre de la visibilité, puisque ça reste un label, on peut en faire de la publicité. Il y a de la publicité qui est faite pour nous par la Commission européenne, par les réseaux qui sont liés. Voilà, là par exemple, je suis en train de faire la publicité de Leuven. Alors, au-delà de ces nombreuses pistes cyclables qui font rêver tous les petits amateurs de la petite reine comme moi, qui me galèrent tous les jours à traverser ma commune, mais qu'est-ce qui fait que Leuven est si exemplaire ? Mais en 2013, donc il y a déjà 11 ans, la ville est à l'initiative de Leuven 2030. Je vous épargnerai ça à l'avenir pour ne plus mentionner que par Leuven 2030, ce sera plus facile. Leuven 2030, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, une ASBL, qui est de co-création citoyenne. Donc la ville a vraiment lancé l'initiative, elle finance Leuven 2030, et aujourd'hui on retrouve plus de 600 membres, parmi lesquels des citoyens, des entreprises privées, publiques, et également des acteurs de la société civile. 5 ans plus tard, en 2018, donc, Leuven 2030 élabore une feuille de route avec des experts locaux. On va retrouver donc la KUL, mais également des bureaux d'études bien connus de certains. Et 18 coordinateurs, là voilà, la fameuse armée, 18 coordinateurs sont chargés de la traduction de cette feuille de route en programme opérationnel et programme opérationnel par la suite en action concrète sur le terrain. Alors les rôles vont être divers. Leuven 2030 ne va pas forcément être à l'initiative de toutes les actions. Elle peut être leader, mais également partie prenante ou autre rôle qu'elle pourrait prendre. Et alors, parmi ces 18 personnes, il y a une manager qui chapeaute l'ensemble et qui est en charge spécifiquement de la gouvernance et du financement. Donc ce qu'on note en fait déjà, c'est que le plan climat de la ville de Leuven n'est pas forcément dans les mains de la ville de Leuven. C'est dans les mains d'une ASBL, dans laquelle, bien évidemment, la ville fait partie du conseil d'administration, mais finalement le plan n'est plus totalement dans ses mains. Alors les thématiques qui sont abordées, on les connaît toutes, la rénovation du logement et des bâtiments tertiaires, l'alimentation durable, la production d'énergie verte, la circularité, le transfert modal, le verdissement de la flotte de véhicules, la création d'espaces verts résilients, les nouveaux bâtiments qui doivent être neutres en CO2, l'arrêt de la bétonisation, la participation citoyenne, et je trouve que c'est un point très intéressant à mentionner, les centres urbains vivants. Leuven ne veut pas se vider de sa substance et souhaite maintenir un cadre de vie au-delà de, pour nous, tous les aspects positifs qui ont déjà été énoncés préalablement, mais je pense que ça permet aussi de faire l'adhésion de toutes et tous en cherchant toujours l'animation de la ville, parce que tous les habitants de Leuven, j'allais dire les Leuvenois, mais ça ne savait pas très très bien dans ma tête, et, ou les Louvanistes, tous les Louvanistes sont en droit d'avoir un centre-ville urbain qui soit vivant, et donc c'est aussi la volonté du plan climat de Leuven. Alors la participation citoyenne, comme vous l'avez déjà compris, c'est la force principale de leur plan, et quelques exemples. y a différentes consultations publiques qui sont organisées. Il y a même de la participation directe à la prise de décision. Par exemple, il y a 12 citoyens qui ont été tirés au sort parmi 2000 candidats pour choisir le design d'espace public, ainsi que le bureau d'architecte qui sera chargé du projet. Alors, le site Leuven 2030 ne raconte pas si les 12 citoyens étaient les seuls à décider du choix du bureau d'architecte, mais en tout cas, ils ont véritablement pris parti dans la prise de décision, ce qui est quand même plutôt rare au niveau des plans climat, il faut le souligner.
Oui, je m'arrête juste un instant, mais c'est pour donner quand même une perspective. Donc, on a 2000 candidats. Louvain, c'est une ville moyenne, c'est-à-dire c'est une ville de 100 000 habitants. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2% quand même de participation de personnes qui sont directement candidates pour participer à ces choix-là. Donc, je trouve ça... C'est un beau succès, enfin, clairement. Ouais.
Je pense qu'on peut le dire.
Oui, non, tout à fait.
Le nerf de la guerre aussi, ben le financement. Comme je l'ai déjà mentionné, la ville de Leuven finance en partie la SBL Leuven 2030. Mais également, pour être membre de la SBL, en fait, il faut s'acquitter d'un frais annuel qui s'élève de 15 € pour les citoyens et pour les membres de la société civile et de 500 € pour les entreprises. Alors, je pense, au vu des entreprises qui sont présentes, que certaines entreprises doivent peut-être payer plus. Je pense que la KBC est en mesure de mettre un financement un peu plus important que 500 € annuellement. Mais ça, voilà, le site internet ne le précise pas et il faudrait pouvoir visionner un rapport annuel ou détailler les comptes de l'ASBL pour se rendre compte du financement. Mais en tout cas, c'est ces pistes-là qui sont envisagées. Et pour faire écho à la ville de la Louvière, Delaine, hein, donc la tech locale, est membre de l'ASBL et donc s'acquitte à minima de 500 € annuellement pour faire partie de l'ASBL Leuven 2030. Donc peut-être un petit frais à rajouter sur la charte de la ville de la Louvière. Ce sera toujours bienvenu pour les finances du projet. alors on va faire un peu de concret aussi, hein, parce que Leuven 2030, ce n'est pas seulement que cette organisation qui chapeaute, mais il y a également des projets concrets sur le terrain. Notamment la mise en place d'un guichet unique pour la rénovation des logements, la production d'énergie domestique, hein, toute l'énergie qu'on peut produire chez soi, et pour l'efficacité énergétique. Donc un seul point de contact pour pouvoir obtenir toutes ces informations. En plus, ce projet fédère les prestataires de services pour que ceux-ci améliorent leur collaboration entre eux et aussi afin de mieux faire percoler les nouvelles technologies qui pourraient, ou nouvelles pratiques qui pourraient survenir. C'est aussi un projet qui permet de faciliter l'octroi des primes et c'est un modèle qui est appelé à évoluer peut-être plus tard en une plateforme locale de rénovation ou d'autres services plus intégrés. Ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet qui concerne la circularité. Donc là, on sort en effet des premiers scopes 1 et 2. Hein. On est direct quasiment dans le 3. Ce qui fait aussi écho au projet de la Louvière. Leuven aussi sort complètement des scopes 1 et 2. Ici, c'est un projet qui s'appelle Leuven Resource Hub. Pardon. Le multilangue, c'est toujours compliqué. Il s'agit en fait d'une collecte entre guillemets zéro carbone, donc je suppose avec des véhicules décarbonés, collecte des surplus alimentaires et de flux de déchets qui sont acheminés vers un pôle central dans lequel on va retrouver en fait des acteurs de la circularité, des entrepreneurs qui vont utiliser ces déchets, non pas comme des déchets, mais comme des ressources premières. Dans ce projet-là, l'association soutient la recherche et le développement et aide aussi à la commercialisation et à la distribution, notamment via une logistique retour. Et ça permet également de se faire rencontrer les citoyens et les entrepreneurs sur une thématique qui, malheureusement, encore aujourd'hui, n'est pas super bien connue du grand public. Alors, il y a également le projet FEAST, qui est l'utilisation d'outils digitaux pour inciter les gens à faire des choix alimentaires plus sains pour eux et pour la planète. Ça, c'est un projet européen qui se fait en collaboration avec 30 villes. Donc on voit que Leuven aussi hein, multiplie les projets à plus haute échelle. Et un dernier projet qui est le transfert modal sur lequel Leuven 2030, qui là est en leader, travaille à lever des obstacles que sont le soutien des usagers au transfert modal, le financement des infrastructures et la collaboration au niveau public. qui est intéressant de noter sur ce projet-là, c'est notamment une forte mobilisation citoyenne, enfin une volonté d'aller sonder la population à travers des ateliers et des laboratoires d'action pour véritablement mieux comprendre quels sont les enjeux. Sur base de ça, ils vont construire un contrat de quartier vert, et ce contrat de quartier vert va leur permettre, ils ont l'ambition d'aller chercher un maximum d'informations de déplacement pour pouvoir en fait évaluer la rentabilité de différents transferts modaux, et cette rentabilité, enfin le calcul de cette rentabilité permet in fine d'aller pouvoir chercher des financements par après. Et alors après, dernier point à mentionner, c'est les collaborations, je l'ai déjà aussi un peu glissé. Leuven a l'énorme chance d'être une ville universitaire, multiséculaire. Pour la petite histoire, hein, c'est en 1425, pourquoi ça intéresse personne?
Ah pardon, je suis attendu, c'est mal.
Mais donc la KU Leuven est partie prenante de l'association Leuven 2030 et met des recherches à disposition. Ce qui a permis, par exemple, de modéliser les projections du plan en imaginant les lieux emblématiques de Leuven en 2030 selon un scénario de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 67% à l'horizon 2030. Ce qui, pour moi, je pense, en fait, est une manière d'apporter le débat au plus grand nombre, parce qu'on va en faire une exposition et ça va être beaucoup plus dans le concret et on va pouvoir... impliquer beaucoup plus les populations qui sont réticentes avec le changement climatique.
Super. Merci pour tout ça. Et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'avoir un séminaire avec François où le bourgmestre de Leuven était venu un peu présenter cette démarche. Et il n'y a rien à faire, il y a quelque chose d'inspirant. C'est-à-dire que rien que dans la communication, on sent que... il n'y a rien à faire, ils ont commencé en 2013, en fait les choses sont intégrées quelque part et ça fait partie de leur feuille de route en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans les échanges que tu as pu avoir avec les jeunes.
On voit qu'ils sont bien au clair avec ce dont ils parlent et c'est vrai que ce qu'ils mettent en avant c'est du costaud. C'est vrai que nous des fois où on est aux prémices de la réflexion, eux ils sont déjà bien engagés et ils savent vers quoi ils vont et vers où ils vont et donc... En effet, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des échanges avec eux. Quoi.
Voilà, et j'imagine que c'est pas problématique de les contacter puisqu'il y a 18 coordinateurs et coordinatrices. Donc si vous voulez leur écrire, j'imagine qu'ils vont pouvoir vous répondre. Ça permet de faire un peu la transition et je vous invite quand même à aller voir le site. On mettra le lien évidemment de netzerocities.eu, notamment parce que là dernièrement ils ont remis toute une série d'articles inspirants et notamment sur le programme des Pilot Cities avec vraiment des thématiques. L'objectif aussi des Pilot Cities c'est vraiment de travailler sur des thématiques très spécifiques. Et il y avait un autre exemple inspirant dont je vais vous parler très rapidement, mais qui a lieu à trait plutôt à la ville de Turku en Finlande, non pas en Turquie, qui a l'objectif, elle, d'atteindre, c'est a priori la première ville européenne qui atteindrait la neutralité climatique en 2029. Et de manière très symbolique, ça marquera le 800e anniversaire de la ville. Donc c'est assez inspirant. Et d'ailleurs, il mettait aussi en avant le travail avec l'université locale. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un trait qui est là. Et ils ont déjà une réduction entre 1990 et 2023 de moins 63% de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et visiblement, ils sont connus. En fait, ils ont... le projet s'est devenu et appelé de manière internationale la ville 1,5 degré quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment mis dans ce cadre et ils ont communiqué auprès de leur population aussi au travers de ce projet-là pour réussir à susciter l'engagement. Ils ont créé notamment une Climate Situation Room, donc on va s'imaginer le bazar. Donc voilà, il y a plein de choses inspirantes à aller voir, donc on vous conseille d'y aller. On va parler de tout à fait autre chose avant de partir vers la fin de ce podcast, et notamment avec Mickaël du Yes Wiki, parce qu'il y a plein de choses inspirantes aussi à trouver chez nous, et elle se retrouve dans un outil en ligne qui a fortement évolué récemment.
Oui, et donc a priori, pour refaire un petit peu d'histoire...
On est très dans l'histoire aujourd'hui, c'est bien.
Moi, j'aime bien. C'est bien. ne pas regretter et s'inspirer pour éviter de faire les erreurs du passé, c'est bien. Donc historiquement, quand je prends ma fonction de coordinateur territorial à la province du Hainaut, l'objectif de la province, c'est d'accompagner les communes pour qu'elles soient autonomes et indépendantes. Donc la réflexion a été, dès le départ, comment mettre en situation, en place, les outils et les méthodes pour que les communes puissent être indépendantes. Je vous passe le détail de tout ce qu'on a réfléchi, mais il y avait notamment la mise en place d'un site internet, un YesWiki. YesWiki, c'est simplement un site internet, je veux dire, qui est open source, donc qui est libre. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Il y a déjà toute une série de commandes qui existent et qui sont préprogrammées. Vous n'avez qu'à faire copier-coller pour pouvoir créer tantôt un agenda, tantôt un déroulé, etc. Et donc, dans les prémices de ma fonction ici à la province, mais donc, j'avais créé un YesWiki pour les communes qui étaient accompagnées par la province de Hainaut, dans laquelle le YesWiki était destiné à stocker de l'information que j'appelle morte, ou en tout cas de l'information qui n'a pas besoin d'être améliorée, modifiée avec le temps. Donc typiquement, c'était le contexte général, c'est quoi POLEC, c'est quoi la Convention des maires. Il y avait un agenda dans lequel je proposais les différentes activités proposées par la province de Hainaut, mais aussi par le SPEB, donc toutes les formations obligatoires. Et différentes ressources, etc. Et en cours de route, il se fait que mes collègues, vous notamment, autres coordinateurs territoriaux, ont trouvé ça intéressant, pertinent. Et donc on a passé un peu de temps sur faire un diagnostic de l'outil qui avait été créé spécifiquement pour la province, pour essayer de l'adapter au mieux, pour qu'il puisse être étendu à l'ensemble des 172 communes wallonnes qui sont engagées dans la Convention des maires, dans le collègue. Et donc, on a pris un peu de temps. Ça a été, il y a des gens qui se tombaient malades, il y a des gens qui ne venaient pas bien, enfin voilà. Mais on travaille avec le vivant, donc on patiente. Et donc, effectivement, le site est sorti récemment et on espère que l'ensemble des coordinateurs POLEC pourront y trouver des choses intéressantes, pertinentes, en sachant que c'est des sites qui sont aussi, je veux dire, interactifs. Toutes les personnes qui y ont accès peuvent apporter des ressources, peuvent annoncer un événement. Et alors, la chose à faire absolument, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous inscrire dans la liste le répertoire qui se trouve sur le site, qui permettra de géolocaliser chacune des personnes et permettra plus facilement de rentrer en contact entre nous, au-delà du Framatime, qui est un autre outil aussi pertinent et qui fonctionne bien.
Je vois que Justine note, donc c'est qu'a priori, c'était pas encore inscrite, mais c'est très bien. Tu as déjà au moins fait une convaincue pour cet outil. On rappelle le site, donc c'est réseau-polec.be. Donc on est passé du YesWiki, effectivement, province de Hainaut.
YesWiki est mort, vive le YesWiki.
Oui, vive le YesWiki. Vive le réseau POLEC.
Le YesWiki n'est pas mort, c'est toujours un YesWiki. C'est juste l'adresse qui est changée.
C'est ça.
Mais sinon, voilà. L'outil s'appelle toujours le YesWiki.
Merci en tout cas pour ce boulot-là. On va passer... Oui, tu voulais dire quelque chose?
Non.
Ah, donc je te vois, il faut une grande respiration. On va passer au coup de cœur, aux recommandations que vous avez ou n'avez pas. Je ne sais pas, on va faire un petit peu le tour et commence... Qui veut? Quelles sont les choses inspirantes que vous avez lues, vues, écoutées, entendues? Les rumeurs, peut-être, je ne sais pas. Qui veut commencer?
Je vais pas recommander une œuvre en particulier, mais plutôt son auteur, Philippe Biwix, qui traite des low-tech. Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas suffisamment. Biwix, ça s'écrit B-I-H-O-U-I-X. Sinon, vous allez chercher longtemps.
On remettra son nom aussi, effectivement.
Oui, je me lance. Donc, je vais parler d'un ouvrage que je n'ai pas lu, bien que pas, mais je suis très curieuse de le découvrir. Donc, c'est basé sur l'œuvre de Bruno David, À l'aube de la sixième extinction, que ça j'ai quand même lu. Et donc, c'est une BD. C'est Le vivant à vif. Donc, je trouve ça intéressant et je suis très curieuse parce que c'est un nouveau format. Ça s'adresse aux ados, donc ça c'est très sympa aussi parce que c'est l'histoire de deux ados qui vont découvrir un petit peu la biodiversité et pourquoi elle est en danger à travers les dérèglements climatiques, etc. Et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place finalement pour entraver tout ça. Et donc je suis curieuse de le découvrir, voilà, Le vivant à vif.
Le vivant à vif. Mickaël, je ne sais pas si tu as une recommandation.
Toujours. Frédéric Laloux, qui est un Belge qui s'est expatrié aux États-Unis, qui a travaillé dans un premier temps sur le système de management, notamment management horizontaux, management libéré, depuis les multinationales jusqu'aux petites TPE, et qui maintenant a réfléchi sur comment propager le passage à l'action par rapport au changement climatique et aux émissions de CO2. Et donc il a mis un petit programme en place qui s'appelle The Week, la semaine, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. Je ne fais pas partie de ceux qui parlent bien anglais, je le dis tout de suite. Mais donc c'est un petit système que je trouve sympa parce que l'identification, le diagnostic du problème de pourquoi il n'y a pas si peu de gens qui passent à l'acte, c'est parce qu'on est dans des groupes sociaux, on est dans une famille, on est avec des collègues, dans une école, et en fait si on prend conscience de ce qui se passe, ben on va être tout seul à changer, et donc on va avoir le regard des autres qui va plutôt avoir tendance à nous freiner ou à nous mettre à part. Et donc lui il a un processus qui s'étale sur une semaine, en trois temps, chaque fois une heure de vidéo, une demi-heure de discussion, à destination soit d'un groupe de famille, soit d'un groupe d'amis, soit d'un groupe de professionnels. Si ce n'est pas professionnel, c'est entièrement gratuit, il suffit de vous inscrire. Et donc, en trois étapes, ben vous allez collectivement passer sur « je comprends ce qui se passe »,« je suis dépressif parce qu'il n'y a pas de solution », et en fait, si, il y a des solutions, et voilà ce que je peux faire, et voilà ce qu'on peut faire ensemble. Et je trouve ça un petit peu intéressant et à propager de ces temps-ci. On a besoin de passer à l'acte et d'être ensemble, et donc c'est une idée, je trouve, assez intéressante.
Et de passer l'état dépressif, c'est important. Justine.
Alors moi c'est un livre qui s'appelle Greenwashing, comment fabriquer ses produits ménagers soi-même. C'est dans un autre cadre, mais je trouvais ça très intéressant, surtout le titre un peu accrocheur comme ça, Greenwashing. Finalement, à l'intérieur, il y a quand même pas mal de recettes de produits lessivés, de produits d'horizon, même pour les animaux, tout ça. Et je trouvais que c'était très sympa de pouvoir faire partager ça, enfin pouvoir partager ça avec d'autres personnes.
Super. Eh bien, moi, je suis un peu resté dans la thématique des villes modèles ou villes exemplaires. Et je me suis rappelé la ville de Curitiba. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une ville au Brésil et qui était longtemps considérée comme la ville la plus écologique du monde, enfin en tout cas, qui était notamment très célèbre vis-à-vis de son réseau de bus qui s'appelait le bus Rapid Transit. Et en fait, pourquoi c'était spécialement célèbre, c'est que c'était une ville qui avait énormément grandi dans les années 70 et qui devait a priori passer à un métro, mais en fait n'avait tout simplement pas le budget. Et donc ils ont réfléchi à des solutions, ils ont réinventé le métro de surface, et donc ils ont aménagé des longs bus, etc., avec vraiment un système voilà, où on s'enregistre avant, on rentre, et donc avec des bus très très efficaces. Donc ça, c'était dans les années 70, puis il y avait toute une série de mesures aussi pour intégrer une dimension sociale aussi, avec le recyclage des déchets, notamment en 1989, ils ont fait une bourse verte où les citoyens, y compris les citoyens de favelas, pouvaient échanger 4 kg de déchets organiques contre 1 kg de légumes et ce genre de choses. Et donc là, je suis retombé sur un article de Reporter. Donc je vous encourage à lire aussi Reporter et cet article-là qui date du début d'année pour voir un petit peu comment les choses ont évolué, parce que cette ville-là est exemplaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être et avoir été? Alors voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on va mettre la place, par exemple pour le vélo, dans une ville? Et donc, en fait, je trouvais intéressant de voir que les choses sont jamais figées et qu'en fait, il faut continuer malgré tout à évoluer. Sinon, en fait, on se retrouve finalement, même quand on était à la pointe, on peut se retrouver en retard. Mais un élément dont je me rappelle, mais qui ne se retrouve pas spécifiquement dans cet article-là, quand on interrogeait le maire, il y avait un maire assez exemplaire dans la ville à l'époque, il se dit comment vous y arrivez, comment vous arrivez à mettre en place ces solutions-là. Il disait, c'est bien simple, il suffit de supprimer un zéro au budget. Et en fait, là, vous trouvez des solutions créatives et inventives pour y arriver. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant comme démarche, qui est parfois à contre-courant de ce qu'on dit, où il faut de l'argent pour financer. Mais voilà.
Je vais rajouter une recommandation parce que tu m'y as fait penser. Le travail Vegetal Cities de l'architecte belge Luc Skuyten, pour un peu inspirer les villes de demain, plus en lien avec la nature.
Super. Je me tourne vers toi. Est-ce que tu as eu l'occasion de noter trois mots que tu as trouvé particulièrement intéressants dans ce que nous avons échangé pendant ces 70 minutes?
J'ai retenu exemplaire, collaboration et réseau.
Exemplaire, collaboration et réseau.
Waouh. Waouh, ok.
Il est parti. Donc, on va être parti sur une à deux minutes d'impro.
Oui, déjà, on va pas prendre le mot collaboration au sens qu'on peut l'entendre, hein, au sens historique.
On avait d'accord, oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça.
On va pas prendre comme ça. Je veux bien la liste de mots. je risque sinon de j'aime bien essayer de les mettre, mais donc ça va.
Ok, on te lance.
Allez, lancez-moi.
C'est parti. 3, 2, impro.
Rédit Jean-Michel. On a le conseil d'administration de l'entreprise dans une heure et il me manque quelques chiffres.
Comment ça, tu manques des chiffres
Si.
Jean-Denis.
Mais si, bien évidemment, écoute. On avait mis en place cette collaboration avec, allez, tu te souviens, cette petite start-up là.
Oui.
On en avait parlé dimanche au golf. Oui,
quand j'ai fait un putt extraordinaire, c'est ça?
Tout à fait, tu avais fait un all-in-one, c'était incroyable.
Oui, oui, je pense que je parle très bien anglais, à la différence de certaines personnes.
Moi, d'ailleurs, c'est vrai, j'aimerais bien te prendre un exemple parce que. On se disait que pendant le conseil d'administration, on aimerait bien un peu faire remonter les compétences anglophones de nos chers administrés.
Oh, right.
Et donc, est-ce que tu pourrais le faire en anglais?
Yes, of course.
Ah, ok. Oh, tu parles trop bien. C'est tellement impressionnant. C'est vraiment...
I collaborate very well.
Ah,
Tu ne me comprends pas. Oui,
le problème, c'est que moi, je ne parle pas anglais.
Oui. Oui, effectivement, c'est vrai.
Tu peux continuer normalement, parce que là, avec ton accent, c'est juste pas possible, on s'entend pas.
Non, c'est vrai, tu as presque eu un accent québécois tout à coup, hein, non?
C'est parce que...
Quoi?
Avec Marie-Denise,
oui.
On est allé en vacances à Québec.
Ah,
c'était super sympa.
Belle empreinte carbone,
Super sympa. C'est grâce à mon réseau. Le Lions Club, et oui. J'ai organisé une petite sauterie, très chouette, très
Et donc chouette. Tu devais nous parler de décision du...
Mais non, tout à fait, il nous manque les chiffres. Les chiffres de la collaboration avec cette petite start-up.
Ah oui,
C'est combien qu'on a mis finalement?
Ah, 5 millions.
5 millions?
Ouais.
Mais 5 millions, c'est trop, hein. Retirer un zéro,
500 000 alors.
Mais 500 000, ça passe. Okay, ça passe crème.
Tu veux du cash ou bien...
Si tu l'as en cash, ça c'est parfait. Hein.
Oui.
Parce qu'après, j'irai simplement voir mon banquier, puis on ira se faire un brunch.
Ah, oh, mais ça va.
Ce sera sympa, ce sera chouette.
Hein. On ira manger à Knock.
À Knock? Ah, c'est chouette.
Allez,
c'est parfait.
Top. C'est le cas. Allez.
Merci, à la prochaine, alors. Hein, salut.
Voilà.
Jamais vous ne faites faire ça, hein, d'accord?
Non, c'est mais on va quand même terminer sur une vraie conclusion. C'était un peu pour la blague. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience dans ce podcast et de ce qui était un petit peu amené aussi? Tu as amené beaucoup d'éléments évidemment. Mais...
Non, c'est très sympa et très intéressant. Enfin, d'avoir eu le débrief de la ville de Leuven, d'avoir plus d'informations sur les villes jumelées, parce que j'avoue que cet appel, moi, je ne connaissais pas énormément, donc ça m'a apporté d'informations supplémentaires. Et puis, l'exercice est très, très marrant, très sympa. C'est très convivial, donc ça va. Ce n'est pas stressant.
Et bon, super, on espère que ça continuera comme ça pour tous les autres invités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde autour de la table. Et puis, on s'entend bientôt, dans le mois prochain, a priori. Au revoir.
Merci.
Salut.
Au revoir. Au revoir.